chers amis, chers frères et sœurs, lisons la parole de Dieu, Évangile selon Jean, chapitre 13. Or, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Et pendant qu'ils étaient à souper, le diable, ayant déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, de le livrer, Jésus, sachant que le Père lui avait mis toutes choses entre les mains, et qu'il était venu de Dieu, et s'en allait à Dieu, se lève du souper et met de côté ses vêtements. Et ayant pris un linge, il s'en ceignit. Puis il verse de l'eau dans le bassin, et se met à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vient donc à Simon-Pierre, et celui-ci lui dit, « Seigneur, me laves-tu toi les pieds ?» Jésus répondit et lui dit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras dans la suite. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non pas mes pieds seulement, mais aussi mes mains et ma tête. » Jésus lui dit, « Celui qui a tout le corps lavé n'a besoin que de se laver les pieds, mais il est tout net. Et vous, vous êtes nets, mais non pas tous. » Car il savait qui le livrerait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous nets. » Quand donc il eut lavé leurs pieds et qu'il eut repris ses vêtements, s'étant remis à table, il leur dit, « Savez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc moi, le seigneur et le maître, j'ai lavé vos pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que, comme je vous ai fait, moi, vous aussi, vous fassiez. En vérité, je vous dis, l'esclave n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes bien heureux si vous les faites. » Je ne parle pas de vous tous, moi je connais ceux que j'ai choisis, mais c'est afin que l'Écriture soit accomplie. Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Je vous le dis dès maintenant, avant que cela arrive, afin que quand ce sera arrivé, vous croyiez que c'est moi. En vérité, je vous dis, celui qui reçoit quelqu'un que j'envoie me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé.
À la demande des frères de Niort, je vais essayer de présenter quelques pensées d'introduction à ceci magnifique sujet que le Seigneur, je n'en doute pas, a placé sur nos cœurs. La vie du Seigneur Jésus se termine à la fin du chapitre 12 de cet évangile. Au chapitre 10, verset 40, le Seigneur quitte Jérusalem et le pays. Dès lors, la gloire de Christ, et nous ne doutons pas que c'est le Père lui-même qui ordonnait toutes choses pour la gloire de son Fils, la gloire de Christ est présentée comme Fils de Dieu au tombeau de Lazare. Il est dit au verset 11, chapitre 11, verset 4, que là, le Fils de Dieu devait être glorifié par elle. Il est reconnu et glorifié comme le fils de David, le Messie et le roi d'Israël, au chapitre 12, au verset 13. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Et puis, lorsque les Grecs montent à la fête et désirent voir Jésus, au chapitre 12, après la scène de Marie de Béthanie, au verset 23, « L'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié. » Donc Christ est reconnu et glorifié comme fils de Dieu, fils de David et roi d'Israël, et fils de l'homme. On notera en passant d'ailleurs que ce sont les trois choses que l'homme a présenté en dérision à la croix. Voici l'homme, voici votre roi. Il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quelle horreur que l'état de l'homme, qui n'a été dépassé que par la grâce et la puissance de Dieu. À partir du chapitre 13, le Seigneur prend sa place de sauveur céleste. Aucun détail historique ne nous est donné dans cet évangile, chose tout à fait remarquable. Les détails se trouvent dans les évangiles synoptiques. Nous savons où la scène s'est placée. C'est placé dans cette maison, dans ce lieu, au moment du repas, le dernier, le repas du souvenir, que le Seigneur va prendre avec ses disciples. La nuit même où il est livré. Il mange la Pâque avec ses disciples, anticipation de la mort de Christ, et il institue pour le temps de son absence le souvenir et le mémorial de sa mort dans la scène du Seigneur. Ce que nous avons ici, c'est tout à fait merveilleux, c'est le côté divin et le côté des affections, des sentiments et du cœur de Christ qui s'épanchent vers le cœur de ses disciples. De sorte que si les circonstances se trouvent dans les évangiles synoptiques, le cœur même du sujet nous est présenté ici. Il faut bien comprendre que le Seigneur, dès lors, spirituellement parlant, a quitté le monde et l'œuvre est déjà accomplie. C'est ce qu'il dit à son Père, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire ». C'est un ordre de choses complètement nouveau qui est introduit à partir du chapitre 13. Au chapitre 13, un frère doué a dit que les pieds des disciples étaient lavés. Au chapitre 14, les cœurs des disciples sont consolés. Au chapitre 15, les lèvres des disciples sont ouvertes. Et au chapitre 16, leur esprit est instruit. Pour essayer de mieux comprendre l'ordre des choses et l'instruction morale qui nous est présentée dans ces chapitres 13 à 16 et 17, on pourrait brièvement revenir sur le modèle des choses terrestres qui étaient le modèle des choses célestes. Nous savons que dans le tabernacle, dans le désert, le tabernacle était placé au milieu d'une cour, d'un parvis. On entrait dans le parvis depuis l'Orient, en direction de l'Ouest, de l'Occident. La première chose qu'on rencontrait, c'était l'autel des holocaustes. Et l'autel des holocaustes, c'est le symbole, l'image de la croix de Christ et de son œuvre à la croix. Et un frère l'a bien expliqué dans une prière, c'est par là qu'il faut commencer. Tout ce qui suit n'a pas de valeur si l'âme n'est pas sauvée, n'est pas placée à l'abri de l'œuvre de Christ. On entre d'abord donc dans le parvis et on rencontre la croix de Christ. Elle n'était plus dans le désert, elle n'était pas encore dans le tabernacle. Christ a été élevé de la terre. Il est dit trois fois dans l'évangile d'ailleurs qu'il est élevé de la terre sur la croix. Ensuite, à partir de l'autel des holocaustes, en se dirigeant vers le tabernacle, on rencontrait la cuve dans laquelle les sacrificateurs se lavaient. C'est exactement le chapitre 13. Le grand sujet de cette première partie du chapitre 13 que notre frère vient de lire est le lavage des pieds par le Seigneur Jésus. C'est le lavage non pas de la régénération, comme notre frère l'a dit tout à l'heure dans la prière, mais c'est le lavage qui se répète parce que nous sommes des croyants faillibles dans un monde dangereux, difficile, et nous avons besoin que nos pieds soient lavés pour être purifiés pratiquement des souillures de notre marche dans le monde, dans le désert. À partir de la cuve, les sacrificateurs s'y lavaient pour accomplir le service. On entrait par le deuxième voile dans le tabernacle lui-même. Et on y trouvait la table des pains de proposition, on y trouvait l'autel d'or, et on y trouvait le chandelier à sept branches. Les trois instruments donc du service sacerdotal dans la première chambre, dans le tabernacle, ouvre en fait l'instruction des chapitres 14, 15 et 16. Au chapitre 14, c'est la table de la communion. Au chapitre 15, c'est le chandelier à sept branches, la lumière et l'amour. Et au chapitre 16, l'analogie est moins claire, c'est l'autel d'or, l'autel des parfums, l'autel de la prière et de la louange. Une seule personne, une seule fois par an, avec d'infinies précautions, Aaron ou le souverain sacrificateur, traversait le troisième voile et allait dans le lieu très saint pour se présenter devant l'arche, devant le trône de Dieu sur la terre. Et le chapitre 17 nous montre comment Christ, le vrai souverain sacrificateur, fils de Dieu, fils de l'homme, entre en figure au-delà du voile et présente au Père cette merveilleuse prière sacerdotale. Quel honneur le Seigneur ne nous fait-il pas de nous inviter à écouter les paroles que le Seigneur Jésus lui-même a prononcées à son Père en levant les yeux en haut. Le chapitre 13, donc, nous amène à la cuve où se lavaient les sacrificateurs, et le Seigneur va nous présenter maintenant le service qu'il a accompli pour ses disciples, qu'il accomplit maintenant pour nous, parce qu'il est notre souverain sacrificateur dans la gloire, en même temps qu'il est notre avocat, et qu'il nous invite à accomplir les uns pour les autres. Le Seigneur donc prend sa place de sauveur céleste. Il savait que son heure était venue. Cette fois, l'heure n'était pas venue dans les chapitres précédents. On a cherché à le saisir sans y parvenir. Sa gloire divine le protégeait peut-être. Non, c'est que son heure là n'était pas venue. Mais cette heure solennelle, glorieuse de sa mort, est là devant lui. Et qu'y a-t-il d'inchangé ? Son amour pour le Père, son amour pour ses disciples, son amour pour chacun de nous. Tant qu'il y aura des saints sur la terre qui peinent, qui souffrent, qui faiblissent, qui pêchent, il y aura les ressources infinies d'un amour inchangeable, éternel et insondable, l'amour de Jésus-Christ. Le Seigneur prend donc sa place de sauveur céleste, il laisse maintenant les siens derrière lui, il va leur donner des instructions. D'abord, il les purifie, d'abord, il se met à leurs pieds, et rien n'est semblable à cette extraordinaire humilité du Seigneur Jésus qui s'occupe des souillures des siens. Et ensuite, il va consoler leur cœur, leur donner une espérance, les assurer justement dans les chapitres 14, 15 et 16 que lui-même allait entrer dans cette gloire comme fils de l'homme, fils de Dieu, et que cette place qu'il avait acquise pour chacun de ses rachetés dans la maison de son Père, elle serait bientôt la part effective de tous ceux qui sont placés au bénéfice de l'œuvre de Christ par la foi.
Il y a des moments ou des périodes ou des passages de la parole de Dieu qui prennent un relief tout particulier et qui ont une importance toute particulière. Nous avons vu que dans les trois autres évangiles, ce qui nous était donné de la nuit où le Seigneur fut livré, c'était les faits, ce qui s'est passé. Et dans l'épître, la première épître aux Corinthiens, quand l'apôtre Paul rappelle ce qu'il a reçu du Seigneur quant à la scène, il parle de cette nuit où le Seigneur fut livré. Il n'y a peut-être pas dans la parole de Dieu de moments, de périodes où on est tant de choses que cette nuit-là. Et il n'y a pas peut-être de moment qui puisse toucher davantage notre cœur que cette nuit où le Seigneur Jésus a été livré. Et quand nous lisons les pages des évangiles qui commencent par cette soirée dont nous avons lu quelque chose tout à l'heure, qui continueront par le jardin de Gethsémané, par les soldats qui viennent, la foule qui viendront pour prendre notre Seigneur et l'amener vers différents tribunaux iniques. Cela touche particulièrement notre cœur. Alors si dans les évangiles synoptiques, le Seigneur, dans Matthieu, Marc et Luc, le Seigneur nous a laissé un souvenir de lui par la scène, ici dans notre chapitre, nous avons dans cet évangile, dans les chapitres 13, 14, 15 et 16 et 17, comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous avons ses paroles, les ressources qu'il nous laisse pour le moment de son absence. Dans les autres évangiles, un souvenir, ici les ressources. Alors, combien nous pouvons être attentifs et sensibles à ces dernières paroles. Quand on a connu quelqu'un, quand on aime quelqu'un, on se souvient particulièrement des derniers mots qu'il a pu nous donner, le dernier souvenir que l'on a de lui. Et ces chapitres sont les dernières paroles du Seigneur aux siens pour le temps de son absence Et cela prend un relief tout particulier. Aussi, au début de ces moments, nous désirons que les uns et les autres, certainement, être particulièrement attentifs à ce que le Seigneur Jésus nous dit dans ces chapitres, non pas simplement pour nous en souvenir, mais comme nous le verrons peut-être dans la suite de ce chapitre, pour que cela ait des conséquences concrètes dans notre vie. Nous lisons peut-être deux des versets clés de ce chapitre. C'est le verset 17, « Si vous savez ces choses, vous êtes bienheureux si vous les faites. » Et puis, le commandement nouveau qu'il nous laisse au verset 34, « De nous aimer l'un l'autre comme lui nous a aimés. » Quant au lavage des pieds, il nous dit qu'il désire que nous lavions les pieds les uns les autres, comme lui l'a fait. Quant à l'amour, il désire que nous aimions l'un l'autre comme lui nous a aimés. Des soins les uns vis-à-vis des autres qui sont la conséquence des soins qu'il a pour nous.
Et un plan de ce chapitre, et nous pouvons noter au début les soins du Seigneur par amour et les soins mutuels de ces rachetés, du verset 1er jusqu'au verset 20. Une deuxième partie qu'on pourrait appeler le secret du Seigneur, un secret qu'il avait gardé jusque-là concernant Judas et qui, nous voyons au verset 21, était profondément ressenti par le Seigneur. Il troublait son esprit. Et puis ensuite, une troisième partie, que l'on pourrait intituler « La croix et la gloire ». Et enfin, ce commandement, cette partie allant du verset 31 au verset, comprenant le verset 31 et le verset 32, et puis ce commandement nouveau que l'on vient d'évoquer, cet amour mutuel des rachetés entre eux, du verset 33 au verset 38.
On a dit quelques mots de la position du Seigneur qu'il prend dans cette portion de l'Écriture, des chapitres 13 au chapitre 17. Elle est résumée dans cette expression de notre premier verset. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père. Et nous lisons dans le chapitre 16, justement, le verset dans lequel le Seigneur exprime pour les siens ce qui remplissait son cœur à ce moment-là sur ce sujet. Au verset 27, il peut dire « Vous avez cru que moi je suis sorti d'auprès de Dieu. Je suis sorti d'auprès du Père. Et je suis venu dans le monde. » Et de nouveau, je laisse le monde et je m'en vais au Père. Arrêtons-nous un instant pour considérer la profondeur de ces paroles. Nous voyons le Seigneur qui nous est présenté comme un divin visiteur venu du ciel d'auprès du Père sur la terre. Et ayant devant lui de laisser le monde pour s'en aller au Père. Il était l'envoyé du Père pour accomplir l'œuvre qu'il lui avait donnée à faire. Et cette œuvre, était devant lui, c'était avant la fête de Pâques, la vraie, celle dont il sera dit par plus tard, notre Pâques, Christ, a été crucifié. Mais, effectivement, l'œuvre était déjà pour lui accomplie quant à ses résultats. Rien ne pouvait faire obstacle à ce que cette œuvre soit pleinement accomplie, et il se place sur la base des résultats de cette œuvre. Ayant devant lui cette joie qui est évoquée à la fin du psaume 16, cette joie d'être auprès du Père, après l'achèvement de ce qu'il a fait, après qu'il a traversé la mort et qu'il en est sorti par la résurrection d'entre les morts. Mais qu'est-ce qui pouvait remplir effectivement le cœur du Seigneur dans un moment comme celui-là? On l'a souligné, il se présente ici comme celui qui prend soin des siens et qui va s'abaisser jusqu'à laver leurs pieds et qui va consoler leur cœur et qui va les instruire à l'égard de tout ce dont ils auront besoin pour le temps de son absence. La pensée même de ce qu'il va traverser ne vient pas obscurcir ses pensées ou freiner l'expression de son affection envers les siens. Il n'est pas occupé de lui-même en aucune manière. Mais il leur communique tous les effets, dire, de l'œuvre qu'il va accomplir pour eux, dans la puissance même de sa personne et de la position céleste qui, dorénavant, va être la sienne. Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père. Peut-on encore dire un mot à cet égard, quand nous pensons que le Seigneur avait la croix devant lui? Et que pour, dans cette expression, passer de ce monde au Père, on peut dire que la croix était contenue. Tout au moins, elle devait être endurée, selon l'expression d'Hébreux 12, avant que cela puisse effectivement se réaliser. Mais la pensée pour Christ de passer, de laisser le monde, ce monde où il avait souffert, mais ce monde où il avait glorifié Dieu. Il pourra dire au chapitre 17, « Moi, je t'ai glorifié sur la terre. » En dépit de tous les obstacles, la pensée de laisser le monde pour être avec le Père remplissait son cœur d'une telle joie, d'une telle satisfaction. Il peut parler aussi aux siens sans que l'ombre de la croix ne viennent être un obstacle dans cette si douce communication. Et pourtant, on verra que tout au long du chapitre, justement, tout en même temps, alors qu'il a devant lui cette perspective, la pensée de la conduite des hommes à son égard vient à plusieurs reprises se manifester par une profonde douleur. À plusieurs reprises, Judas est évoqué comme celui qui le livre, et nous verrons en particulier dans le paragraphe qui le concerne de quelle manière le Seigneur a été effectivement profondément attristé par ce qu'il a connu de la part de celui qui le livrait.
XIV de ce même évangile,
Le Seigneur dira au verset 28, vous avez entendu que moi je vous ai dit, je m'en vais et je viens à vous. Si vous m'aviez aimé, vous vous seriez réjouis de ce que je m'en vais au Père, car mon Père est plus grand que moi. On voit ce qui occupait, dans un sens, le cœur du Seigneur, ce qui faisait sa joie, à cause de la joie qui était devant lui. Il a enduré la croix, il a méprisé la honte, nous dit l'Écriture. Mais ici, en quelque sorte, les heures de la croix ne sont pas, on pourrait dire, exprimées clairement. C'est ce qui est devant le Seigneur, c'est le moment que son cœur attendait, passer de ce monde au Père. Ce qui est remarquable aussi, c'est de voir évidemment l'omniscience du Seigneur. Elle se manifeste, on peut dire, à chaque ligne. Là, il sait que son heure est venue pour passer de ce monde au Père. Au verset 3, il est dit, Jésus, sachant que le Père lui avait mis toutes choses entre les mains et qu'il était venu de Dieu, s'en allait à Dieu. C'était dire la grandeur, d'ailleurs, de son élévation. Il va prendre tout à l'heure la position la plus basse qui soit, la plus humble qui soit, mais ici nous voyons toute sa grandeur. Et cet évangile de Jean met particulièrement l'accent constamment sur le fait que c'est le Fils de Dieu, et Dieu lui-même. Et encore au verset 11, il dit, il savait qui le livrerait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous nets. Et c'est évidemment quelque chose qui touche nos cœurs que d'être placé ainsi devant celui qui savait toutes choses d'avance, mais que rien n'a détourné de son chemin. Son cœur, en effet, n'était pas arrêté dans son activité d'amour par la pensée, justement, de ce qui allait se passer dans l'heure qui suit. On voit toute la différence, bien sûr, avec Pierre, auquel il dira, ce que, verset 7, ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, tu le sauras dans la suite. Mais quant à lui, eh bien, c'est, on peut dire, dans la plénitude de cette connaissance parfaite qui était en lui, qu'il agit ici dans toute la perfection de son amour et de sa grâce envers les siens.
Pour le Seigneur, une appréciation élevée de ce que représente la communion avec le Père. Et nous réalisons bien dans ce début de chapitre et avec les versets correspondants qui ont été rappelés que c'est quelque chose d'extrêmement riche et qu'il y a pour le Seigneur le désir que les siens aussi jouissent déjà de cette relation. C'est quelque chose qui élève tout de suite le sujet que nous avons là. En quelque sorte, le Seigneur dit « Je sais qui est le Père ». L'Évangile n'est pas là pour rien. Je sais quelle richesse, quelle douceur, quelle grandeur il y a dans une vraie communion avec le Père. Et je voudrais que vous réalisiez quelque chose de ce que j'éprouve à cet égard et du prix de l'intimité avec le Père, de la communion avec le Père. Quant au chapitre 14, il parle justement de communion. Il peut dire au verset 21, « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi je l'aimerai, je me manifesterai à lui. » Et puis, un peu plus loin, au verset 23, « Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. » Puis au chapitre 20, quand il s'adresse à Marie, il dit bien, « Je monte vers mon Père et votre Père. » Et derrière ces expressions, nous sentons que le Seigneur nous tire pour nous dire, il y a là
quelque chose d'extrêmement beau, riche en conséquences. Et il vous faut entrer dans ces choses-là. Et ce qui suit dans la réalisation pratique et dans l'invitation du Seigneur correspond à cette force avec laquelle le Seigneur nous tire pour nous dire « il faut cela pour que vous jouissiez de ce qui est si important et dont je jouis moi-même à son niveau le plus élevé, le plus réel. »
Et généralité, je pourrais dire encore une chose à propos de l'attitude du Seigneur. Le Seigneur, nous le voyons, d'abord, il a des pensées, il a ses pensées, il sait ce qui le concerne. Puis, il y a un enseignement muet. Le Seigneur ne parle pas tout de suite. D'abord, il a des pensées, il sait ce qu'il en est de toute chose, son heure, les circonstances, la trahison dont il sera l'objet, etc. Puis il y a l'enseignement muet du lavage des pieds. Il prêche par l'exemple. Puis ensuite, il y aura l'enseignement proprement parlé, les chapitres, la fin des chapitres 13, 14, 15, 16. Et ensuite, la prière. C'est un modèle d'attitude. Nous devons avoir déjà des pensées selon Dieu. Puis ensuite, nous pouvons d'abord agir, montrer dans notre vie quelque chose qui est en rapport avec les pensées que l'Esprit nous a données. Et après, nous pouvons peut-être ensuite avoir un enseignement oral. Et alors, je voulais, toujours dans la généralité, faire remarquer que les disciples, grâce à ce lavage, vont être d'abord, en quelque sorte, sanctifiés, purifiés, c'est pas tout à fait la même chose, mais enfin, ils seront donc au bénéfice de ce lavage, et ensuite, ils seront au bénéfice de l'enseignement. Et je pense que c'est déjà un point important. Nous ne pouvons pas recevoir un enseignement profitable si nous ne sommes pas déjà en communion par la purification. Et c'est le ministère du Seigneur par rapport à l'Église, comme on le voit dans Éphésiens chapitre 5, où l'Église est d'abord lavée, sanctifiée par le lavage d'eau par la parole, c'est le ministère de la parole continuelle dont nous parlons, n'est-ce pas ? C'est chapitre 5, verset 26, il la sanctifie, la purifie par le lavage d'eau par la parole. Et ensuite seulement, eh bien, verset 29, il la nourrit et la chérit. On est nourri et on ressent l'amour divin, et on est dans la jouissance de la communion après ce travail de purification. C'est essentiel, c'est par là qu'on commence, et combien nous avons à apprécier ce service d'intercession du Seigneur et y avoir recours et nous laisser laver les pieds. C'est important, c'est important. Laver les pieds, pourquoi ? Ça, je répète ce que j'ai lu. Laver pour le désert, pour marcher dans le désert, ce serait nombre, la Génisserou, cela, c'est pour pouvoir marcher justement devant ce monde dans le désert, il faut avoir les pieds lavés, il faut être lavé par la parole. Alors, lavé pour la marche dans le désert, mais aussi pour le service sacerdotal, c'est ce qu'on voit dans Exode 30, le lavage à la cuve des reins dont on a déjà parlé. Et ensuite, ça va ensemble, lavé pour la communion. Et c'est ici, chapitre 13, nous n'avons pas de part avec le Seigneur si nous ne sommes pas purifiés. Voilà, tout ça, c'est très proche. Mais c'est intéressant de le considérer pour nous faire apprécier ce service et surtout, encore je le répète, pour nous faire laisser faire. Parce que là, je crois qu'on pourra y revenir tout à l'heure à propos du lavage mutuel. Mais ça, on verra ça après. Mais déjà, c'est intéressant de connaître la portée de ce service du Seigneur lui-même, tellement nécessaire pour toute la bénédiction ensuite qui s'ensuit.
Il est question ici, c'est donc bien l'heure de son départ auprès du Père, et que le chemin passe par la croix. Et quand le Seigneur, il est dit du Seigneur qu'il les aima jusqu'à la fin, nous comprenons donc que la fin ici on peut dire, c'est qu'on prend toute la période depuis son départ jusqu'au moment où il revient pour chercher les siens. Et c'est pendant ce temps que s'exerce ce service d'amour dont il est question plus loin. Toute cette période est en vue ici, et nous sommes dans cette période. La fin ici ne s'arrête pas à la croix, elle va bien au-delà de la croix. Il est précieux de savoir que nous sommes au bénéfice des soins constants de notre grand souverain sacrificateur pour les faiblesses qui sont les nôtres et de notre avocat pour les péchés que nous pouvons commettre et que nous avons à confesser.
Encore un mot pour celui qui a écrit cet évangile. Jean, dans notre chapitre, nous n'avons pas lu ce verset à une place très particulière. Il est dans le sein du Seigneur. Si nous nous reportons au premier chapitre où nous voyons cette expression « Personne ne vit jamais Dieu », celui qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. On voit un peu cette place particulière de l'évangéliste. C'était un fils de Kehath. Il portait l'arche sur son épaule. Il est très près du cœur de Christ et de son amour. Une place privilégiée, une place enviable. Et nous savons que sa révélation, c'est celle de Dieu le Fils. Dieu est là dans un homme, au milieu des hommes. C'est très attachant. Nos yeux ont pu le voir, nos mains l'ont touché. Celui qui était la vie éternelle, celui qui était la lumière incarnée, celui qui était l'amour incarné. Il est là. Plus particulièrement dans ces chapitres 13 à 17, le Seigneur va opérer dans leur âme pour leur montrer que leur relation et leur position devant Dieu est la même que la sienne comme homme. Quelle place, quel prix cela doit avoir pour nous. La même place que Christ comme homme, dans la même proximité avec Dieu comme Père. Quand nous considérons aussi ces versets pour la question de la communion, nous rappelons Apocalypse 4, où nous voyons qu'il y a devant le trône une mer de verre, comme du cristal. Il n'y a plus de cuve. Tout est en perfection. Dans le chemin, nous avons à nous purifier, comme lui est pur, achevant la sainteté dans la crainte du Seigneur. C'est ce que nous avons dans ces passages qui nous reportent à Nombre 19, où nous voyons l'eau vive appliquée avec les cendres de la génisse rousse, qui nous rappelle ce que Christ a été tout entier comme sacrifice pour restaurer nos âmes dans cette application par la puissance de l'Esprit-Saint.
Le Seigneur est venu de Dieu. C'est donc l'envoyé, le prophète, l'apôtre. C'est la parole faite chair, Jean 1, 14. Mais maintenant il s'en va à Dieu. Descendu d'auprès du Père, laisse le monde et de nouveau monte vers le Père. Il est le souverain sacrificateur. Il est à la fois le grand prophète, l'envoyé, mais aussi le souverain sacrificateur dans la gloire. Il est sacrificateur devant Dieu. Il est avocat devant le Père. Pour prendre soin de nos faiblesses, pour prier pour nous et aussi pour nous relever lorsque nous avons péché. Mais s'il prend maintenant sa place de sauveur céleste, il donne aux siens, aux rachetés du Seigneur, cette même place de croyant céleste, C'est un des caractères que nous trouvons ici dans l'Évangile, c'est celui de la famille céleste. C'est une grande différence avec Matthieu 28. Les saintes femmes se prosternent devant le Seigneur après sa résurrection et lui rendent hommage en le touchant. En Jean 20, au contraire, ne me touche pas, je ne suis pas monté vers mon Père. De sorte que maintenant les croyants sont vus comme une compagnie céleste. Ils ont une place avec le Seigneur là où il est, afin que là où moi je suis, ils y soient aussi. C'était une des requêtes que le Seigneur a présentées à son Père et la promesse qu'il fait en Jean 14. Je reviendrai, je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous, vous soyez aussi. De sorte que nous avons toujours à considérer que si le Seigneur est par grâce un sauveur céleste pour nous, nous sommes nous aussi, par vocation, par anticipation, déjà dans le ciel comme des rachetés célestes. En même temps, là les circonstances nous le rappellent bien vite, nous sommes encore sur la terre. De sorte que le Seigneur nous destine à sa propre présence dans le royaume et la présence de Dieu lui-même, et il s'occupe maintenant en grâce de nos circonstances sur la terre. C'est un double aspect que nous n'avons jamais à perdre de vue.